Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail que l'on effectue dans le cadre de la zone Atelier Loire et d'une ANR. Et vous allez voir qu'il s'inscrit exactement, je dirais, dans la même philosophie que ce que vient de vous présenter Nathalie. Voilà. Il s'agit de l'analyse d'une levée, non pas en milieu urbain sur la Loire, puisqu'elles sont bien connues en milieu urbain, mais d'une levée en milieu rural. Hein, c'est une levée beaucoup plus négligée. Hein, c'est le cas de la levée d'Uxelou que je vais vous présenter immédiatement. Alors, le souci, c'est que je n'arrive pas à passer. Ah, ça y est. Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une ANR, l'ANR DIG, qui travaille sur la compréhension, l'identification des trajectoires et des transitions pour les systèmes d'endiguement. Cela porte sur des sites endigués aussi bien littoraux, comme vous pouvez voir ici, que fluviaux. Et il y a donc parmi ces sites, un d'entre eux sur la Loire, c'est le site d'Uxelou, sur la Loire bourbonnaise, à la limite du Bourbonnais et du Nivernais. Voilà, donc le site d'Uxelou, Lutenay-Uxelou, vraiment en milieu rural. Nous avons ici un ouvrage qui n'est pas classé en système d'endiguement puisqu'il ne protège officiellement que 13 personnes. Donc, il est supposé être mis en transparence. C'est un ouvrage qui assure potentiellement un niveau de sécurité pour des crues ordinaires, sachant qu'il n'y a pas eu de grande inondation dans le Val outre-levé depuis un bon moment. Les enjeux environnementaux sont importants. Je me contente juste de vous montrer ici la carte Natura 2000, voilà, pour ne pas développer plus que ça. Nous avons affaire en termes paysagers à ce que nous avions appelé dans le cadre de la zone Atelier Loire, donc depuis le début des années 2000, à une configuration en val triple, avec d'un côté le chenal actif de la Loire, le chenal endigué dans lequel nous avons une très grande diversité de mosaïques paysagères, et de l'autre côté de la levée, un val endigué où on a là une agriculture intensive qui tranche avec le paysage entre guillemets naturel qu'on a de l'autre côté. Donc, vous avez ici en bas à gauche une photo de la levée avec une de ces rares bornes de navigation qui, à mon sens, constitue aussi un patrimoine fluvial intéressant. Donc, notre objet est de comprendre effectivement les interactions, les jeux de rétroaction entre le fleuve, sa levée et ses formations végétales. Pour ça, nous développons une approche classique, hein, je dirais, dans la compréhension du fonctionnement de ces hydrosystèmes anthropisés, donc avec une approche aussi bien du côté des sciences humaines que des sciences de la Terre, mais aussi on analyse la végétation, hein, la végétation de la répulsive, essentiellement sous l'angle de la végétation arborée. Les analyses dendrochronologiques ont pris du retard en raison du Covid et elles sont encore en cours. Bien, tout d'abord, ce que l'on voit, c'est que cette levée, comme souvent dans la Loire, c'est une levée hybride. C'est en soi un objet hybride qui a été construit en plusieurs étapes, hein, et qui a une histoire assez mal connue et qu'on connaît au travers, je dirais, des catastrophes et des réparations qui ont été faites suite aux crues. Donc, un objet qui est construit sur un pas de temps long, au moins 100 ans, hein, et qui a été homogénéisé, je dirais, au 19e siècle, au début du 19e siècle, mais en reprenant un plan d'aménagement d'un ingénieur du roi du 18e siècle. C'est un ouvrage aussi qui est fragile, comme tous les ouvrages de la Loire, et ça, ça pose question, hein, puisqu'on voit la récurrence de brèches dans cet ouvrage, donc construit sur un pas de temps. Il semblerait même que pour protéger l'ouvrage, dans les années 80, on ait carrément déplacé le lit de la Loire. Des choses qu'on ne ferait plus, bien sûr, aujourd'hui. Alors, le paysage et les formes fluviales répondent à cet aménagement très rapidement. Et ils répondent par une banalisation des formes, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, avec le remplacement d'un chenal sinueux, un système de wandering fluvial forms, c'est-à-dire mixte entre sinueux et chenaux multiples par un chenal unique, hein, qui est, on va dire, bloqué véritablement par la construction de cette levée, donc, très rapidement. Donc, on a une fermeture du paysage et une diminution du chenal actif. Hein, c'est une évolution connue en Loire. Ceci s'accompagne d'une évolution du couvert arboré, mais en décalage, tout simplement parce que ce milieu est très utilisé jusqu'à la, on va dire, à la fin des années 50, début des années 60, voire plus loin, par les sociétés riveraines qui cultivent et qui pâturent. Hein, donc, on a une végétation qui ne répond pas exclusivement à l'aménagement du fleuve, mais aussi aux pratiques agro-pastorales, hein, à l'entretien du lit par la population. Il faut voir aussi que l'évolution de la forêt alluviale va dépendre de l'abandon de la navigation, puisque à partir du moment où on va abandonner la navigation, on arrête d'entretenir le lit, et ceci avait été très bien démontré par la thèse de Stéphane Guillet. Donc, nous avons établi, le long de transectes, de profils transversaux, nous avons établi un diagnostic de cette végétation, d'une part, et d'autre part, nous avons essayé de caractériser, d'un point de vue sédimentaire et d'un point de vue hydrologique, les facteurs pouvant potentiellement contrôler l'évolution de cette végétation. On a affaire ici au transect amont de la digue, puisque la Loire ici coule plutôt vers le nord, jusqu'à preuve du contraire. Donc, nous avons ici des unités fluviales et végétales qui correspondent à d'anciennes levées. Vous voyez, à d'anciennes îles, excusez-moi, le franc-bord rattaché à la levée étant la partie la plus anciennement stabilisée. Et puis, on a une succession d'îles plus ou moins jeunes, ou plus ou moins anciennes. On voit qu'on a une végétation, ici une forêt alluviale, qui montre très peu de régénération. On a des cortèges alluviaux vieillissants et très peu de formations récentes. Ceci est fort probablement lié à une fréquence de submersion faible. On voit que non seulement on a une hauteur d'eau, vous voyez ici, dépassée 3 jours par an, qui n'assure qu'une submersion très incomplète de ces formations végétales, d'une part, et d'autre part, on a un perchement du sol, tout simplement, par rapport à la nappe. Hein, donc, vous voyez ici que la majeure partie du temps, la nappe est à plus de 3 mètres de profondeur par rapport à la végétation. Bien. En aval, sur le secteur aval, la submersion est un petit peu meilleure en termes de durée, un tout petit peu meilleure, hein, puisqu'on a une hauteur d'eau dépassée plus de 3 jours par an, un peu plus haute sur les unités donc, qui jouxtent la levée, hein, avec de très nombreux bras morts qui assurent la reconnexion hydraulique de notre forêt. Donc, la végétation est un tout petit peu, on va dire, plus diversifiée, hein, avec des formations plus jeunes, mais cependant, je soupçonne qu'à terme, on aura un vieillissement et une absence de régénération identique à ce que l'on observe en amont. Seul le secteur médian présente une situation un peu meilleure, qui est tout simplement liée au fait que là, la Loire est plus proche. Bien. Ici, un facteur nous semble important dans la diversité des formations végétales, c'est non seulement la fréquence de submersion, on voit que là, on a des hauteurs d'eau un peu meilleures lors des crues, hein, et c'est fort probablement lié, comme je vous le disais tout à l'heure, à la proximité avec la Loire, mais on a aussi un rôle important des embâcles de débris ligneux qui ont assuré, nous semble-t-il, une meilleure submersion du secteur au cours des dernières années. Bien. Lorsque l'on s'intéresse maintenant à l'analyse de la végétation sur la levée, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que la levée n'est pas fondamentalement différente en termes de cortège floristique forestier. Hein, on y observe, alors je ne vais pas détailler, hein, mais les mêmes essences végétales, en termes arbustifs, maintenant il va falloir travailler sur les formations plus basses, on y observe les mêmes formations végétales que celles qui se succèdent, hein, qui apparaissent dans le Val, comme on a pu voir tout à l'heure. On s'est posé la question, puisque ça c'est une grande problématique à l'heure actuelle, les ingénieurs partent du principe actuellement que l'arbre présente un danger pour la stabilité de la veille. Alors c'est vrai, comme on peut le voir sur cette photo en haut à droite, que ces arbres peuvent provoquer, en formant des chablis, des arrachements, comme on peut le voir ici, du péril, hein, qui est présent en particulier du côté Loire. Nous avons identifié effectivement sur la levée un très grand nombre, une très forte majorité de très vieux individus, fort sympathiques, fort beaux, en particulier de vieux charmes, de vieux peupliers noirs très sénescents et de vieux ormes qui présentent un intérêt très grand, puisque je vous rappelle que les ormes sont de plus en plus rares dans les plaines d'inondation en raison de leur maladie. Bien. Donc, effectivement, ces arbres peuvent être potentiellement soumis à des chablis, mais en même temps, ils présentent une diversité qui est intéressante. Enfin, pour ce qui concerne les facteurs d'évolution de ces formations végétales, on en a identifié de trois ordres. Tout d'abord, on a une banalisation des écoulements, je dirais, les plus faibles. Nous avons une augmentation de la fréquence et de la durée des basses eaux, hein, que l'on voit bien ici avec le graphique en haut à gauche en jaune. Hein. On observe sur 50 ans plus 9 jours par an en termes de durée des basses. Par contre, quand on s'intéresse aux étiages, c'est-à-dire aux basses eaux les plus creuses, on a du fait de l'aménagement des barrages et entre autres du grand barrage situé en amont, on a une réduction de la durée des basses eaux. Donc ça peut sembler contradictoire, mais en fait ça ne l'est pas. Les écoulements les plus faibles sont soutenus par le barrage de Villars. Bien. Par contre, quand on s'intéresse au débit supérieur à la médiane, c'est-à-dire aux hautes eaux, là on observe aussi une forte réduction de leur durée, hein, moins 6 jours par an. Et cela concerne également les crues, hein, qui sont de moins en moins fréquentes et de plus en plus courtes. Ceci explique donc une inondabilité de plus en plus rare, on va dire, de nos cortèges forestiers, comme on l'a vu tout à l'heure. Deuxième facteur qui explique le perchement du lit par rapport à la Loire, c'est l'enfoncement du chenal. Et là, on voit très bien un enfoncement du chenal ancien qui est très probablement, avec une incertitude faible, lié à la création de la levée du 18e au 19e siècle, hein, au début du 19e siècle. Puisque cette incision est ancienne, hein, on aurait une incision de 7 cm à 1 cm par an, vous voyez, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et plus récemment, et ça c'est plus grave, on observe la poursuite de cette incision. Ceci fait que le lit s'exhausse latéralement. Donc la Loire, en termes de chenal actif, s'enfonce et continue à s'enfoncer en réaction fort probablement à l'effet conjugué de cette levée et des extractions de sédiments. Et donc, les marges se surélèvent progressivement. Donc, on a une amplification du différentiel topographique dans le temps et d'amont en aval. Ce qui crée fort probablement ce problème de perchement des unités du lit qui devraient être pourtant potentiellement inondable et qui devrait aussi stocker l'eau en période d'inondation. Je retourne un tout petit peu en arrière parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arbre est perçu de façon très négative quant à la stabilité de l'ouvrage. C'est intéressant parce que, en mettant notre nez dans les archives du 19e siècle, on s'est aperçu qu'au moment où la Loire est abandonnée en termes de navigation, les ingénieurs, au contraire, prônent la plantation d'arbres sur la levée, partant du principe que ces plantations devraient assurer la protection de l'ouvrage contre l'érosion. Donc c'est intéressant de voir que les ingénieurs ont changé diamétralement de pensée en partant du principe qu'aujourd'hui, l'art, comme je vous l'ai dit, n'est plus du tout perçu comme une protection contre les inondations et contre les érosions. Donc, ça nous amène à réfléchir à cette perception. Alors, en termes de conclusion, puisque je crois qu'il me reste une minute.
Exactement.
Nous avons pu identifier les effets sur le long terme de cet ouvrage, qui est un ouvrage extrêmement banal en milieu rural, qui a quasiment disparu sous la végétation. On a pu voir que le rôle de l'arbre est assez controversé à l'échelle historique et nous amène, nous en tant que chercheurs, à réfléchir si effectivement cet arbre a un effet tellement négatif sur cet ouvrage, hein, qui est enfoui dans la plaine, on va dire. Donc, on est supposé aller vers un scénario de mise en transparence. En même temps, les enquêtes auprès de la population, qui sont réalisées par Tristan Bouillard, un doctorant, montrent que l'ouvrage s'inscrit dans un anthroposystème et est un patrimoine et très utilisé par la population. Pas seulement par la végétation, mais par la population. Hein. Donc, en tant que chercheur, doit-on effectivement participer à la pensée générale et à la réglementation qui veut qu'on ait un arasement, ou doit-on réfléchir à un scénario de laisser évoluer cet anthroposystème avec sa levée? Voilà, je vous remercie de votre attention.